Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Vous avez choisi cette émission sans doute parce que, comme tout un chacun, vous vous posez plusieurs questions relatives à la Légion d'honneur et aux récompenses nationales, leur rôle, leur mode d'attribution, leur relation avec le pouvoir politique et d'autres questions encore. Toutes ces questions, nous allons les poser en votre nom au grand chancelier de la Légion d'honneur, le général d'armée Jean-Louis Georgelin, que j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Canal Académie. Bonjour général.
Bonjour madame.
Hier vous étiez sous la coupole, aujourd'hui vous êtes de nouveau à l'Institut de France dans le studio de Canal Académie. On va vous accueillir avec grande joie, monsieur le chancelier. Soyez donc le bienvenu, c'est un plaisir de vous recevoir après avoir été chef d'état-major des armées. Vous avez été nommé à la Grande Chancellerie le 9 juin 2010. Alors la première question que je vous poserai est celle-ci. Les récompenses nationales, la Légion d'honneur, mais aussi l'Ordre national du mérite et d'autres décorations, ont-elles encore un sens aujourd'hui dans notre société contemporaine? Et si oui, à quels besoins répondent-elles selon vous?
Alors d'abord, vous avez dit que j'étais hier sous la coupole, ce n'était pas comme académicien, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'était comme spectateur.
Oui, enfin, comme spectateur honoré,
honoré,
vous étiez au premier
sûr,
rang.
Bien sûr, mais ce n'était pas moi, c'était ma fonction. Oui, alors vous me demandez si elle correspond à quelque chose. Je crois qu'elle correspond à un besoin fondamental de toute société, qui est de se voir reconnu dans la société par ses mérites, et de quelque sorte d'être désigné aux autres comme étant quelqu'un de mérite. Je crois qu'une société a besoin que l'on désigne, à l'exemple des autres, ceux qui ont excellé dans tel ou tel domaine.
Donc, ces décorations nationales, elles récompensent des mérites, mais quels mérites, quels critères avons-nous?
Alors, c'est un problème fondamental pour la Légion d'honneur et qui est souvent mal compris, d'ailleurs. La Légion d'honneur est souvent perçue comme un ordre militaire. Elle le doit au fait qu'elle s'est effectivement beaucoup militarisée à l'occasion des deux guerres mondiales et des guerres de la décolonisation. Mais en réalité, dès le départ, la volonté de Napoléon, c'est que cette décoration soit une décoration civile et militaire. C'est tellement vrai, d'abord que le premier grand chancelier nommé par Napoléon est un civil, le comte de la Cépède, et la première remise de décoration par Napoléon a lieu le 15 juillet 1804 dans l'église du Dôme des Invalides, et elle est faite à des civils. C'est le 15 août 1804 au camp de Boulogne que Napoléon décorera pour la première fois des militaires. Napoléon disait « Je veux décorer mes soldats et mes savants ». En tout cas, s'il ne l'a pas dit, on lui fait dire. Ce qui montre que dès le départ, la Légion d'honneur s'adresse à l'ensemble des activités de la nation et elle est là pour décorer ceux qui ont rendu des services éminents dans la nation. Et le code de la Légion d'honneur, qui est un petit peu notre constitution, parle d'activités essentielles. Vous avez remarqué que le président de la République, le jour de son installation dans ses fonctions, se voit présenter le grand collier de grand maître de la Légion d'honneur. Ce grand collier fait 16 maillons. Sur chacun de ces maillons est gravé à la verre une activité essentielle de la nation, le commerce, l'industrie, les arts, la justice, etc., l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, pour bien montrer que toutes les activités de la nation, toutes les activités essentielles de la nation doivent être récompensées.
Au fond, un ordre, une décoration, c'est fédérateur, c'est un ciment national?
Je ne sais pas si on peut dire que c'est un ciment national. En tout cas, la Légion d'honneur est un, si vous me permettez cette expression contemporaine, est un grand marqueur de l'identité nationale française. Comme l'Académie, d'ailleurs, comme l'Institut de France, comme le Conseil d'État, comme ça fait partie de ces grandes institutions françaises qui ont traversé la Révolution ou qui ont été remaniées ou créées pour la Légion d'honneur sous l'Empire et qui jouissent d'un prestige considérable en France, je dis bien en France encore, et à l'étranger.
On va revenir sur ce que vous avez dit à l'instant, c'est-à-dire que le président de la République est obligatoirement ou institutionnellement le grand maître de la Légion d'honneur. Quel est donc le rapport entre l'ordre de la Légion d'honneur, le conseil de l'ordre, le grand chancelier que vous êtes et le pouvoir politique?
Alors, le patron, si je puis dire, de la Légion d'honneur, c'est le grand maître. fonction héritée de l'empereur, fonction qui est d'ailleurs institutionnalisée aussi tardivement qu'en 1881 par Jules Grévy. C'est là où on codifie le grand collier. Au préalable, il y avait plusieurs grands colliers. Napoléon l'avait donné à chacun de ses frères, etc. Mais le grand maître est vraiment institutionnalisé et on lui remet ce grand collier. Autrement dit, le grand maître est le véritable patron de l'ordre. Et il dispose, le terme veut bien dire ce que ça veut dire, chancelier, celui qui a les clés, etc. Il dispose pour administrer cet ordre et d'abord pour lui recommander ou lui proposer les citoyennes et les citoyens qui méritent d'être reçus dans cet ordre. Il dispose du Conseil de l'Ordre, de la Légion d'honneur, et le Conseil de l'Ordre est présidé par le grand chancelier. Mon cœur de métier, comme on dit aujourd'hui, c'est la présidence du Conseil de l'Ordre, dont la responsabilité éminente est de proposer au grand maître celles et ceux, encore une fois, que nous estimons dignes de recevoir la Légion d'honneur. Et le grand maître, ne peut pas remettre de Légion d'honneur qui n'ait été approuvée, proposée par le Conseil de l'Ordre. Et en disant cela, je réponds à votre question du lien entre le grand maître et le...
Mais il n'intervient pas directement dans le Conseil de l'Ordre. Donc le Conseil de l'Ordre, on peut considérer qu'il est indépendant par rapport au pouvoir. Mais en même temps, effectivement, il y a ce lien. Donc c'est un petit peu difficile tout de même à gérer ces relations.
C'est pas si difficile que ça, vous savez.
Chacun connaît bien sa fonction.
La presse aime toujours opposer les uns et les autres et faire des gammes autour de ce thème. Non, je crois que chacun est bien dans son rôle. Mais en même temps, si vous voulez, là où les choses... s'initie, ce sont les ministres qui proposent au Conseil de l'Ordre les personnes qui sont susceptibles de décorer. Donc, c'est en quelque sorte, c'est le pouvoir qui
c'est l'exécutif, en
c'est
fait.
C'est l'exécutif.
Oui.
En réalité, pour avoir la Légion d'honneur, il faut être proposé. Et les gens qui proposent, ceux qui proposent, ce sont les ministres. Vous ne pouvez pas avoir la Légion d'honneur si vous n'avez pas été proposé par un ministre. Mais le ministre ne propose pas directement au président de la République. Il propose au Conseil de l'Ordre qui examine ses propositions. Donc vous avez un équilibre qui s'établit en réalité entre... Ça ne veut pas dire que le président de la République ne peut pas proposer quelqu'un. En particulier, c'est lui qui propose directement les dignités, c'est-à-dire grands officiers, grands croix.
Est-ce que justement les ministères ont tous le même nombre de décorés à approuver ou à proposer? Ou est-ce qu'il y a des ministères qui en ont plus que d'autres?
Alors, je crois qu'il faut, si vous me permettez, on va faire un peu d'arithmétique. Je crois qu'il y a quelques chiffres à connaître.
Quelques chiffres.
Je suis convaincu que si on faisait un sondage auprès de vos auditrices et de vos auditeurs, qu'on demande combien il y a de Françaises et de Français décorés de la Légion d'honneur, on aurait des chiffres fantaisistes. En réalité, il n'y a que 93 000, en gros, citoyennes et citoyens qui sont membres de l'Ordre de la Légion d'honneur.
93 000 vivants.
Vivants, car la Légion d'honneur... depuis le code des 1962, récompense une élite vivante. Et chaque année, en gros, on promeut ou on décore 3600 personnes. Sur ces 3600 personnes, il n'y a que un peu plus de 600 militaires d'actifs et 600 au titre de service militaire, d'anciens combattants, etc. Ce qui veut dire que le reste, 2400, est dévolu à des civils. Vous voyez que les chiffres sont assez, en réalité, assez... Donc, pas aussi volumineux que certains le disent.
93 000 vivants, quel est le quota par an?
Alors, par an, c'est 3600.
3600 par an, et donc...
Ces chiffres sont éclatés dans une programmation triennale que nous proposons au grand maître entre les différents ministres. Alors, évidemment, le nombre de décorés n'est pas le même entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, le ministère
Chacun,
très important, évidemment, est soumis à la parité homme-femme, de sorte que, en dehors des armées, in fine, une promotion comporte 50% de femmes et 50% d'hommes.
Ça, c'est assez récent.
C'est de 2008. Mais le taux de 50% n'est pas le même selon les ministères. Par exemple, à l'Éducation nationale, nous demandons 60% de femmes, 40%
oui, ça
d'hommes,
dépend
etc.
Des...
La justice, pareil, à l'inverse, à l'intérieur, c'est 60 hommes, 40 femmes, etc. Mais au total, nous veillons à ce que les promotions soient paritaires, s'agissant du sexe.
Je voudrais revenir un instant sur les mérites, parce que vous avez dit que... évidemment, les décorations nationales sont attribuées en fonction des mérites, mais pouvez-vous donner quelques exemples de ces mérites? Parce que, voilà, on dit souvent, on le donne à n'importe qui. Voilà, c'est pour répondre à cette question. Que répondez-vous à cela?
C'est une question que nous prenons en pleine figure.
Je ne sais pas si cette formule est correcte
à Canal Academy, non loin de la coupole précisément, et on nous dit, vous la donnez à n'importe qui. En réalité, l'ambiguïté vient de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que nous examinons les mérites un petit peu en tuyau d'or dans les activités de la nation. Alors, il y a des cas où c'est indiscutable. Par exemple, les mérites militaires, celui qui a risqué sa vie au champ d'honneur, etc. En général, les décorations militaires ne sont pas contestées. Il y a des cas où les choses vont de soi. Par exemple, je suis très attentif à ce que soient proposés celles et ceux qui excellent dans le domaine de la recherche scientifique, dans le domaine économique, dans le domaine etc. Il y a des fois dans le domaine des arts, où là déjà il y a davantage parfois d'étonnement.
Parce qu'ils font rayonner France.
Je vais vous prendre un exemple que j'aime bien citer. On a fait, depuis que je suis là, on a promu Yvette Horner au grade de commandeur de la Légion d'honneur.
Accordéoniste, je le dis pour nos auditeurs étrangers.
Bon, et alors je me suis posé la question et j'ai regardé. Yvette Horner, depuis 1947, jusqu'à encore un passé récent, elle a animé le Tour de France. Elle a eu beaucoup d'activités sur le territoire national et elle a apporté beaucoup de bonheur aux Français.
Absolument.
Et dans le monde entier, quand vous dites accordéon, on dit Yvette Horner. On dit elle a fait rayonner la France. Alors évidemment, quand on la compare à... Je vous dis ça parce que je reçois des lettres à chaque fois. J'ai reçu une lettre de quelqu'un qui me dit « Monsieur le grand chancelier, comment un soldat comme vous a-t-il pu accepter de donner ?» Mais voilà. Pourquoi ? Parce que le code dit « On récompense des services éminents ». Eh bien, dans son domaine à elle, qui sont les arts, qui sont la musique et la variété, eh bien, Yvette Horner a remporté des... Et je pourrais vous prendre 50 exemples de ce type. Le jeune médaillé olympique qui a eu une médaille d'or... Il l'a pas eu au hasard, il l'a eu à l'issue d'une grande préparation, d'un grand entraînement, etc. Il a fait retentir la Marseillaise dans les enceintes des Jeux Olympiques de Londres. Il a travaillé au rayonnement de la France. Nous avons eu un prix Nobel, Monsieur Haroche, récemment. Il avait déjà...
Académicien,
bien sûr, madame. C'est bien, d'ailleurs, que ces gens-là étaient aussi distingués, s'agissant d'universitaires, enfin, de gens qui sont dans le domaine de la recherche, dans le domaine des travaux de l'esprit, soit distingué aussi par l'Académie. D'ailleurs, je suis attentif aux décorations dans notre premier ordre national des membres de l'Institut, parce que qui est élu à l'Académie, évidemment...
Ce n'est pas par hasard. Bien sûr.
Voilà en gros, ce que je peux vous dire autour de cette semaine.
Juste pour terminer sur ce point, est-ce qu'il y a des personnes qui sont refusées? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont interdites? Est-ce qu'on peut remettre la décoration à titre posthume? Est-ce qu'elle peut être retirée? C'est une salve de questions.
Ce sont des questions toutes plus importantes les unes que les autres.
Alors, interdit ou refusé, un dossier refusé par exemple.
Alors, non seulement on peut, mais c'est fréquent. C'est-à-dire que au Conseil de l'Ordre, nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement passive. Chaque membre du Conseil est rapporteur pour un ministère. Il étudie les cas et il soumet à ses collègues du Conseil, que je préside donc, les cas qui lui paraissent devoir discuter et éventuellement être refusés. En gros, nous rejetons à peu près 15% des propositions qui nous sont faites par les ministres, ce qui est beaucoup.
Ce qui est beaucoup, oui, parce que les gens ne sont pas prêts ou parce que la forme n'est pas réglée.
Pour plusieurs raisons, souvent parce que les mérites nous paraissent insuffisants. Le code dit « mérite éminent ». Nous ne voyons pas à travers le dossier qui nous est proposé quels sont les mérites éminents. D'autres fois, c'est parce qu'il y a des problèmes administratifs, on n'a pas respecté les délais, on n'a pas respecté l'intervalle entre deux grades, etc. D'autres fois, c'est parce que les gens qui ont proposé ne savent pas qu'il y a des antécédents judiciaires qui ne sont pas connus, ou bien des problèmes fiscaux, etc. Car chaque nomination, pour chaque candidat, nous vérifions à la grande chancellerie qui m'entoure et qui m'aide pour administrer cet ordre. Nous vérifions auprès du ministère du Budget et du ministère de la Justice que la situation des gens, il y a donc des gens interdits, comme vous dites, les gens qui ont été condamnés, nous les écartons. Ensuite, il y a la discipline de l'ordre. À chaque réunion du Conseil de l'ordre, nous examinons les cas des légionnaires, puisque c'est ainsi qu'on appelle les membres de l'ordre, qui ont commis des fautes contre l'honneur. Et nous ouvrons, enfin, plus exactement, le code fait obligation au chef de juridiction de la justice d'informer le grand chancelier ainsi que les préfets de celles et ceux membres de l'ordre qui ont failli à l'honneur. Donc j'examine les cas et je décide, moi grand chancelier, d'ouvrir ou non une procédure disciplinaire. Nous examinons ces cas en séance plénière du Conseil et nous proposons une sanction qui peut être de trois types. La radiation définitive de l'ordre, elle est automatique quand les gens sont condamnés à plus d'un an de prison ferme. La suspension, qui peut être de durée variable, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ces deux sanctions, si elles sont suivies des faits, sont publiées au journal officiel. Ou la césure, c'est le terme employé dans le code, c'est-à-dire un blâme, que le grand chancelier délivre à la personne concernée. Le Conseil de l'Ordre propose, mais ne décide pas, c'est le grand maître qui décide de donner suite ou pas aux sanctions qui sont proposées par le Conseil de l'Ordre. Ça se présente comme ça.
À titre posthume, ça arrive pour les militaires,
par exemple ?
Alors, à titre
posthume, jusqu'en 1962, il y avait, c'était une des conséquences des grandes guerres, des deux guerres mondiales et des guerres de la colonisation, il y avait remise de la Légion d'honneur à titre posthume. Le général de Gaulle, quand il a réformé le code, a souhaité qu'on arrête cette procédure. Le président Mitterrand, en 1982, je crois, ou 84, après les événements du Liban, etc., nous avons eu d'autres tués, a refait modifier le code et a réouvert la possibilité de décoration à titre posthume en encadrant bien cette disposition.
Justement, vous avez évoqué le général de Gaulle. On sait qu'il a créé aussi l'Ordre national du mérite. Est-ce que vous pouvez en dire un mot, justement ? Quelle est la différence entre les deux ordres ?
Alors, je suis aussi chancelier de l'Ordre du mérite. Et donc, je propose aux grands maîtres, celles et ceux qui peuvent être distingués dans cet ordre.
Qui est aussi le président de la République.
Qui est aussi le président de la République. Et alors, il y a évidemment beaucoup de similarités dans le fonctionnement des ordres. Ils fonctionnent de la même manière. Un conseil de l'ordre, des propositions de ministres, etc. Alors, le code de la Légion d'honneur dit que la Légion d'honneur récompense des services éminents, mérite récompense des services distingués. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que des services éminents? Qu'est-ce que c'est que des services distingués? Surtout que si vous êtes dans le Robert, on vous explique qu'éminent c'est distingué et vice-versa. En réalité, quand on a un peu l'habitude, on voit bien, quand on examine les dossiers, ce qui est du domaine de la Légion d'honneur. On fait bien le départ entre ce qui est du ressort de la Légion d'honneur et ce qui est du ressort de l'Ordre du Mérite.
La Légion d'honneur est parfois remise à des étrangers, ça surprend aussi. Mais on suppose que c'est aussi dans cette optique de rayonnement de la France à l'étranger, je suppose.
Alors, il y a trois types de promotions pour les étrangers. Il y a d'abord les usages diplomatiques internationaux qui remontent à l'époque de la monarchie. Lorsqu'il y a des visites d'État, il y a échange de décorations. Visite d'État, le président de la République qui se rend à l'étranger ou un chef d'État étranger qui est reçu en France. L'usage est de conférer la Grand Croix de la Légion d'honneur au chef d'État étranger, de la manière que le président de la République française, lorsqu'il se rend à l'étranger en visite d'État, pas officielle, est décoré le plus souvent de l'équivalent de la Grand Croix de la Légion d'honneur. D'ailleurs, quand Napoléon crée, parce que ça n'a pas été fait tout de suite, ce grand cordon de la Légion d'honneur, c'est au départ pour, en quelque sorte, avoir un cordon à remettre à ses, aux monarques.
Échanger les cordons, voilà, comme on disait.
C'est une des raisons.
Jadis.
Car la Légion d'honneur, je ne l'ai pas dit, mais je pense que la plupart de vos auditrices et auditeurs le savent, comporte 3 grades et 2 dignités. Les grades, c'est chevalier, officier, commandeur.
Oui.
Les dignités, c'est grand officier, grand croix. Donc, les premières décorations pour les étrangers sont les visites d'État. Les secondes, ce sont les étrangers vivant en France, qui sont proposés par les ministres, mais consolidés au ministère des Affaires étrangères, comme les Français à peu près. Et ensuite, les étrangers à l'étranger, qui sont proposés au protocole du Quai d'Orsay par les ambassadeurs de France. Alors évidemment, on s'efforce de décorer des gens qui ont servi les intérêts de la France ou qui ont eu un rayonnement tout à fait particulier, exceptionnel, qui mérite que la République française les salue de manière particulière.
Monsieur le Grand Chancelier, puisque nous disposons encore de quelques minutes, la Légion d'honneur, c'est aussi 2 établissements scolaires réservés aux jeunes filles. D'où vous voyez ma question, comment peut-on, dans une société républicaine qui prône à la fois l'égalité et la parité, réserver une éducation très sélectionnée et très sélective uniquement aux jeunes filles? Comment on justifie cela aujourd'hui?
Alors, les maisons d'éducation de la Légion d'honneur ont été créées dès le départ par la volonté de l'empereur Napoléon. Napoléon a souhaité qu'il y ait des établissements scolaires pour l'éducation des demoiselles, c'est-à-dire des filles de ses légionnaires. Pourquoi uniquement des filles? Parce qu'il estimait qu'il y avait assez d'établissements pour les garçons, les lycées. Il y avait eu la création du Prytanée militaire, par exemple, à la Flèche, des choses comme des établissements de ce type. Donc, il a souhaité créer cet établissement un peu sur le modèle des demoiselles de Saint-Cyr. D'ailleurs, la première surintendante, c'est ainsi qu'on appelle le chef d'établissement de la maison d'éducation de Saint-Denis, de l'abbaye royale de Saint-Denis, que l'ACPED, le premier grand chancelier, achète en bien national pour y installer cet établissement, et Madame Compan, qui avait été elle-même chef, enfin patronne, si je puis dire, de la maison d'éducation des demoiselles de Saint-Cyr. Voilà. Et ces établissements ont effectivement traversé tous les régimes depuis 200 ans, et elles sont toujours réservées aux arrière-petites-filles, petites-filles ou filles des membres de nos trois ordres, c'est-à-dire la Légion d'honneur, la médaille militaire créée par Napoléon III et dans son esprit, c'est la médaille militaire et la Légion d'honneur du sous-officier, et l'ordre du mérite. Alors, vous avez dit très sélective, nous sommes un établissement ouvert, c'est-à-dire que nous ne sélectionnons pour nos établissements ni par l'argent, la pension est relativement modeste, et ni par l'excellence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concours. Nous avons une commission présidée par mon secrétaire général en mon nom, et nous examinons chaque année les dossiers pour l'admission. Nous avons à peu près entre 800 et 1000 demandes par an, et nous avons en gros 250 à 280 places ouvertes.
Mais elles sont donc ouvertes à des classes sociales que l'on qualifie de défavorisées autant qu'aux
Bien
autres.
Bien sûr, nous avons tous les éléments de cas, puisque nous exemptons du prix de la pension. Seuls 50% de nos demoiselles, enfin des familles de nos demoiselles, paient le tarif complet de la pension. Et nous avons jusqu'à 10 ou 20% de gens qui ne paient pas de pension. Nous n'oublions pas que dans ces maisons d'éducation, il y a une notion d'entraide aux membres de nos ordres, si vous voulez.
Alors justement, vous avez dit que le légionnaire, puisque c'est comme ça qu'on doit l'appeler lorsque la personne est décorée, ce légionnaire doit être encore au service de la nation, encore plus lorsqu'il est décoré. Comment peut-il poursuivre son engagement? Quels sont ses moyens pour poursuivre l'engagement au service de la nation?
D'abord, il a un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire, celui qui est décoré de la Légion d'honneur, en réalité, il est désigné à la communauté nationale et il y a donc un devoir d'exemplarité dans son comportement. Ensuite, les choses ont un peu évolué et mon prédécesseur, le général d'armée Kelch, a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Un Avenir Ensemble et il invite ainsi des décorés à parrainer des jeunes Françaises et des jeunes Français, boursiers méritants, qui ne trouvent pas dans leur famille les moyens de poursuivre des études, pour les aider à partir de la classe de seconde jusqu'à leur premier emploi. Donc c'est une manière de parrainer, ou bien d'aider par l'argent, pour favoriser les études de ces jeunes-là. Il existe par ailleurs une société des membres de la Légion d'honneur qui a été créé par un de mes prédécesseurs, le général Dubail, et dont je suis président d'honneur, et qui regroupe les légionnaires qui le souhaitent et qui permet à ceux qui le souhaitent également, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Honneur en Action, d'avoir également des activités au profit de la collectivité dans leur région d'établissement.
Pour terminer notre entretien, les Français sont-ils, à votre avis, attachés à la Légion d'honneur? Et dans l'avenir, comment envisagez-vous de promouvoir l'ordre et les décorations nationales auprès du grand public et notamment auprès des jeunes?
Alors, que les Français soient attachés à la Légion d'honneur, c'est indiscutable. Je vous le disais au début de cet entretien, quand je vois le nombre de gens qui écrivent pour recommander tel ou tel ou s'auto-promouvoir, je vois bien que l'ordre garde tout son prestige en France. Alors, comment je fais pour le promouvoir? D'abord, j'ai fait faire un sondage.
Oui.
Pour voir quelle était l'image de la Légion d'honneur dans la société française. Et j'ai vu que la Légion d'honneur gardait en dépit de toutes les attaques dont elle est l'objet par certains au moment de l'apparition des promotions, elle gardait une image tout à fait positive, puisque 68% de nos concitoyens ont une image positive de la Légion d'honneur, ce qui est bien. Et il y a une chose qui est curieuse, pour rebondir sur la question sur les jeunes, c'est que c'est dans les tranches d'âge les plus jeunes que l'image est la meilleure.
Les 18-20 ans aiment les décorer.
À 82%.
82% des jeunes.
Mais c'est assez intéressant de voir que pour les jeunes, la Légion d'honneur représentait quelque chose.
Bien sûr.
Alors qu'est-ce que je fais aussi ? J'essaie de mieux expliquer les promotions lorsqu'elles sont portées à la connaissance du public. C'est le travail de la chargée de mission Alice Bouteille que j'ai auprès de moi. Et nous essayons d'attirer l'attention sur un certain nombre de gens, car le réflexe d'un journaliste est d'aller chercher celui ou celle qui va pouvoir créer la polémique, ou si vous me permettez, à 50 mètres de la coupole, le buse. Voilà. Donc nous essayons, pas avec toujours succès, bien sûr.
Oui, d'attirer l'attention sur un bon côté plutôt que sur...
Car je suis parfois frappé de la mauvaise foi d'un certain nombre de critiques. Je voyais l'autre jour un article d'un journaliste autrefois très connu s'indignant que l'on remette la Légion d'honneur à n'importe qui, ce qui est un marronnier, si je puis dire, de la Légion d'honneur. Et à l'appui de sa thèse, il montrait une liste de gens décorés dans la dernière promotion, celle du 14 juillet, par leur profession. Mais je me disais, au nom de quoi peut-on exclure telle ou telle citoyenne ou tel citoyen parce que sa profession ne paraît pas à ses observateurs, enfin à ses censeurs, digne de la Légion d'honneur. Enfin, c'est absurde. Vous pouvez rendre des services éminents à votre pays, aussi bien dans les arts, encore une fois, dans le sport, dans la recherche scientifique, en étant militaire, etc.
Que dans le commerce, bien sûr.
Etc. Donc, je trouve cette position...
polémique, voilà.
plus que polémique.
Malveillante, quasiment.
Malveillante, assez stupide, en réalité. Et puis, nous avons d'autres outils. Par exemple, nous avons un superbe musée. Vous savez que la Légion d'honneur est installée depuis le début à l'hôtel de Salm, en face du musée d'Orsay. Et nous disposons, nous avons, et j'en suis... le responsable, en même temps que l'ordre et les maisons, probablement le plus beau musée de phaléristique du monde. Phaléristique, c'est-à-dire des médailles. Ceux qui aiment les médailles, l'histoire des médailles, verront dans ce musée des choses absolument remarquables. Et en ce moment, d'ailleurs, nous faisons une exposition sur le collier du grand maître pour expliquer son histoire, pour admirer l'actuel collier, etc. Donc j'invite vos auditeurs et vos auditrices de venir avec leurs enfants, leurs petits-enfants s'ils en ont, et eux-mêmes, bien sûr, visiter cette exposition.
Et ceux qui aiment aussi les beaux bijoux, car ce sont des bijoux, fait. Ça m'a beaucoup frappé lorsque j'ai visité ce musée. Je vous remercie, monsieur le grand chancelier. Je pense que nous ne sommes pas dans la polémique avec Canal Académie. Je voudrais dire que justement, nous avons libre à l'écouter au téléchargement un entretien avec le général d'armée Kelcheux, votre prédécesseur à la grande chancellerie, qui a créé cette fondation Un Avenir Ensemble, et aussi un entretien avec le général d'armée Gobiliard, président de la Société des membres de la Légion d'honneur, pour son initiative Honneur en action, dont vous avez parlé. On peut trouver toutes ces émissions sur Canal Académie et celle-ci sera certainement très écoutée. Merci de votre présence.
C'est moi, madame, qui vous remercie.